Nous sommes en mai 2017 et vous écoutez l'épisode 87 chronique de Proxy Jeux. Proxy Jeux, c'est le podcast qui vous parle de jeux de société. Je suis Dédé Schutz et ce mois-ci, je suis avec celui qui revient tout tatoué de son séjour en prison, Père Castor.
Salut Dédé, ça va?
Ça va, c'était pas trop dur de tuer des gens dans l'auberge et ensuite d'être en prison, quoi.
Fais gaffe, je suis en conditionnel là. Donc,
t'es en conditionnel. Ah, c'était ça ton bracelet au pied.
Voilà, c'est ça.
Ok, et merci à la boutique Philibert de nous aider à réaliser ce podcast. Philibert, c'est une boutique à Strasbourg et surtout une boutique en ligne qui vous propose toute une sélection de jeux de société sur philibernet.com. Et d'ailleurs, si vous passez dans la boutique, faites-leur un petit coucou de notre part. Et un grand merci à nos tipeurs de soutenir ce podcast. Et merci aussi à la famille Blue pour son don en nature.
Et en parlant de tipeurs, une première actu qui concerne les sous-bocs, que les tipeurs attendent sans doute avec impatience depuis le début de la saison. Ouais. Ils sont arrivés, on a récupéré les cartons et les envois devraient bientôt débuter.
Voilà. Surveillez vos boîtes aux lettres, quoi.
Et d'ailleurs, les tipeurs qui ont la chance de venir au week-end Proxy Jeux devront les recevoir en exclusivité.
En avant-première, quelle chance. Alors, on en aura aussi, si vous n'êtes pas tipeur, mais que vous passez à des bretzel et des jeux, on en aura aussi disponibles à la vente.
Sur notre stand, vous pourrez nous passer, faire un petit coucou et vous pourrez récupérer également des super sous-bocs à l'effigie de notre logo.
Voilà. Alors, pour les sacs, ceux qui ont pledgé au niveau sac.
À petite déconvenue.
Voilà, on a eu des petits soucis techniques. Ça a pris un peu de retard. Alors j'espère qu'on prendra pas autant de retard que les canopies. Mais justement, je voulais un truc qui soit beau parce que comme j'ai vanné les canopies, tu vois, si maintenant je viens avec un sac qui n'est pas terrible, on va m'allumer, quoi.
Ouais, c'était pas le budget, donc c'est excusable.
C'est sûr, c'est pas le même budget.
Mais j'ai trouvé une très bonne alternative aux canopies, hein. C'est les boîtes Samla de Ikea.
Ah, pour bien ranger.
Ah bah ouais, c'est parfait. Ça c'est. Pour le transport aussi, si tu prends le grand modèle, t'as les roulettes.
Ah, bah voilà.
Et tu peux même ranger les boîtes de Conan à l'intérieur, tu vois.
Ouais, c'est vrai que sur mes Billy, là, derrière, ils ont pas les roulettes pour les transports.
Ouais, d'ailleurs, on a bien galéré pendant ton déménagement.
Ok. Tant qu'on est dans des actus au niveau ludique, alors c'est pas sur le podcast, mais c'est la sélection du Spiel qui est tombé aujourd'hui.
Aujourd'hui, on enregistre pile poil dans
l'actu. Quoi.
Voilà, en pleine synchro.
Voilà. Alors, on va dire qu'on les a exprès attendus ou qu'ils se sont dépêchés peut-être pour le publier avant qu'on enregistre le podcast, pour qu'on relaie.
On a eu un mail en allemand là sur.
qui nous ont dit. Martin
Attendez le 22 juin, s'il vous plaît, pour enregistrer les chroniques. Ouais. Voilà.
Et du coup. Alors, pour le Spiel, sont sélectionnés.
On rappelle, c'est le pion rouge, hein, donc c'est la catégorie phare.
Voilà, c'est le jeu familial de.
Qui est devenu familial, puisque c'est vrai que les autres années, on avait tendance à avoir des jeux quand même relativement costauds. Ouais, donc, si on revient 10 ans en arrière, par exemple.
Bah, c'est devenu familial depuis qu'il y a le Kinder Spiel, en fait.
Voilà.
C'est plutôt ça. Et donc, on a Eldorado. Alors, le jeu de Knizia dont on n'a jamais entendu parler chez Ravensburger.
Voilà, peut-être si on passe la frontière de Strasbourg,
voilà,
là, on en entend parler.
Si on peut prendre le tram maintenant pour aller.
D'ailleurs, le titre complet, c'est Wettlauf nach Eldorado.
Ah, le voyage, le chemin. Je ne sais pas.
La marche, peut-être. Laufen.
Voilà. Alors, on va passer sur un jeu au nom américain, Magic Maze. Donc ça, on vous renvoie vers l'épisode jeu du mois de Cyrus, nous en avait parlé. Il en avait parlé à son retour de Cannes dans les jeux du mois. C'était au mois de
Au
mois d'avril.
L'épisode consacré à Magic Maze, présenté par Cyrus, et Not Alone, présenté par Benoît FX.
Voilà. Et donc le troisième jeu de cette catégorie, c'est King Domino. Le fameux, quoi.
De chez nous.
De chez nous, voilà, un jeu français. Donc de Bruno Catala par Blue Orange qui a pas eu l'As d'or en fait, tout le monde l'attendait.
Voilà, il était dans la sélection.
Voilà. Eh ben il va peut-être avoir le Spiel. Ce serait un beau pied de nez à l'As d'or.
Tu as déjà joué à King Domino?
Ouais, moi j'ai déjà joué, j'ai découvert à Essen et j'ai tout de suite accroché. C'est vrai que le principe est simple et comme les gens disent, c'est devenu un classique, quoi.
Mais en plus, voilà. Il a un bon format. C'est une boîte pas trop grande, voilà. Pas trop chère. Le matériel qu'il faut à l'intérieur, des tuiles épaisses.
Des belles grosses tuiles, voilà.
Bon, on va pas revenir sur la finition laquée.
C'est une finition brillante, mais bon. C'est Cyrus qui a des problèmes de vue.
Ouais. Il a un problème d'éclairage, peut-être, sur sa table de jeu, c'est pour ça.
Mais sinon, oui, moi, j'aime bien, quoi. Et toi, tu as joué aussi?
J'ai joué avec Flavien, il me l'a fait découvrir. Et bon, on a enchaîné les parties, on a fait les différentes variantes aussi. Quand tu peux jouer sur la carte en mode 7-7.
Ouais, ça c'est quand tu joues à deux.
Et on y a joué que à deux, et franchement ça marche bien.
Non, ouais, de deux à quatre, ça marche toujours bien, quoi. Alors après, soit tu joues à deux et t'enlèves des tuiles pour faire un 5x5. Soit pour éviter d'avoir enlevé des tuiles, vaut mieux jouer à deux avec la version 7 en faisant un 7-7 d'un carré de 7.
Oui, parce que ça rallonge pas non plus éternellement la partie.
Voilà, c'est pas non plus le plus long. Ou jouer à 4, comme ça t'as pas de tuiles à enlever. Ouais. C'est juste si tu joues à 3, là t'es quand même obligé d'enlever quelques tuiles.
Mais si tu joues à 4, il y a combien de tuiles disponibles à la sélection ou à l'achat?
Il y a 4 tuiles, mais seulement chacun a un.
Ah ouais, donc t'as moins de choix, donc tu subis un peu plus.
Donc voilà, tu subis, ouais. C'est un jeu de placement quand même, hein. Faut bien choisir. En fait, faut bien choisir son ordre du tour, savoir si t'es premier ce tour-ci, au prochain tour, t'auras sûrement, tu vas passer dernier sûrement, ou t'auras la moins bonne, quoi, parce que les autres ils vont se précipiter pour prendre les bonnes tuiles, quoi. Après, tu peux pas avoir toutes les bonnes tuiles tout le temps, quoi.
Ah, ouais, mais après c'est aussi le choix, est-ce que tu te favorises toi ou est-ce que tu dis allez je prends un truc qui est peut-être un peu moins optimisé mais pour au moins essayer de bloquer, ouais, une tuile qui serait trop forte pour les autres. Mais alors si ça t'oblige à regarder sur les quatre tableaux en même temps, ça commence
à faire
beaucoup.
Non, mais ça tu le fais surtout à deux, tu peux empêcher beaucoup. À quatre, c'est vrai que t'essayes plus de dire ah, cette tuile-là, il me la faudrait, mais ça intéresse sûrement quelqu'un d'autre aussi, quoi. Donc c'est souvent plus ça, quoi. C'est moins pour t'embêter que parce que ça l'arrange aussi, quoi. Ouais.
T'as tendance à jouer pour ton jeu.
Voilà, comme t'as seulement un meeple à placer, quoi. Tu prends qu'une tuile, donc c'est plus tendu, quoi. Ouais. De chaque tour, quoi. Donc faut vraiment bien se placer, parce que quand tu es à deux avec tes deux meeples, il faut quand même que tu peux quand même choisir, dire voilà, je prends cette tuile parce qu'elle est vraiment bien et il me reste un deuxième pour choper soit quelque chose qui va emmerder l'autre, soit avoir un deuxième choix plutôt moins pourri, quoi. Mettre un en tête et un tout en bas, quoi, de la colonne, comme ça ouais. T'as un petit delta pour repartir après.
Après, c'est aussi une question d'organisation de son plateau pour pas non plus se fermer et garder des possibilités ouvertes et pas forcément attendre obligatoirement un type de tuile où t'aurais que de la plaine, par exemple. Essayer d'avoir différentes solutions possibles. Mais moi, ce que j'aime bien dans ce type de jeu, c'est que à la fin de la partie, voilà, t'as construit quelque chose. Tu peux faire une photo de ton accomplissement.
Avec le bon angle, hein, parce que
voilà, voilà, c'est ça. Mais c'est les jeux de construction comme ça où au final, voilà, t'as achevé quelque chose à la fin et t'as un résultat.
Et on voit, c'est un jeu, c'est tout simple. Et là, on parle déjà tactique et, voilà. Et stratégie de trucs. Alors que c'est tout simple. Alors on peut jouer simplement ou réfléchir. Et dire ah, si j'avais fait comme ça, ça aurait.
Ouais, si après en plus tu commences à connaître les probabilités de chaque tuile.
Tu peux les avoir, elles sont. Il y a une aide de jeu qui est très pratique, ouais, au dos du truc qui te donne.
Tu commences à calculer tes codes, là tu deviens un joueur de poker en fait.
Non, mais c'est sûr que si tu te bases sur les trucs mines et montagnes, là où il n'y en a pas beaucoup, et que t'en rates deux malencontreusement, ouais. C'est sûr que. Faut peut-être trouver un plan B, quoi.
Bon, alors ton pronostic pour la catégorie rouge.
Alors moi, mon pronostic, c'est King Domino, hein. C'est je pense que il a raté l'As d'or, il mérite le spiel, quoi.
Ouais.
Je pense
Ouais, je pense que c'est un bon candidat. Après, il faut voir. Bon, allez, on va pour pas tirer de polémique, mais depuis combien de temps un jeu allemand d'un éditeur allemand a pas été récompensé sur la catégorie rouge? Faudrait refaire l'historique.
Moi, je pense pas qu'ils regardent ça. Après, j'ai pas joué à Eldorado, je sais pas, voilà, lequel est le principe et tout ça, mais c'est vrai que King Domino, c'est vraiment un principe simple et qui est accessible mais quand même, mais où il y a quand même à réfléchir, quoi. Donc ça peut être plutôt que Magic Maze qui est plutôt un concept un peu plus c'est un peu plus concept, parce que comme tu joues pas tu dois jouer en silence, c'est plus un coopératif, je sais pas si...
Bah, peut-être que les tables allemandes sont silencieuses quand elles jouent, je sais pas. À Essen, il y a beaucoup de bruit, mais c'est plutôt le bruit environnement que les joueurs.
Ouais. Voilà. Et toi, tu parierais sur lequel ?
Ouais, je pense King Domino aussi. En plus, il rentre dans une gamme de tarifs qui s'adapte bien pour ce type de prix. C'est pas un jeu ni trop cher, ni...
Si vous misez aussi sur King Domino et que vous l'avez pas encore acheté, bah, attendez qu'il ait le Spiel et vous le retrouverez à 6 euros en Allemagne.
Oh, ouais, à Essen c'est l'année prochaine.
C'est
ouais.
peut-être le seul défaut qu'on peut trouver à avoir le Spiel, quoi. C'est que le prix, il va être bradé, quoi. Enfin, après, est-ce que c'est un défaut
dans l'immédiat?
Bah, souvent après, quoi. Après le Spiel, il tire le prix vraiment vers le bas, quoi. Donc après, est-ce que...
Bon, s'ils ont la garantie d'en vendre 200 ou 300 000 boîtes par derrière.
Ça. Ok, et sinon après, on a le Kenner Spiel.
Donc la catégorie costaud, là.
Voilà, costaud.
Ça ne nous plaisante pas.
Voilà. Alors, on a Pillard de la mer du Nord. Je peux te laisser faire une recherche sur
absolument.
Sur notre site ProxyJeux, parce que...
c'était aussi un jeu du
Cyrus,
mois.
Voilà, Cyrus et BenoFX en ont déjà parlé dans les jeux du mois. Donc c'est un jeu de Pixies ou Pixie Game.
En plus, c'était le jeu du mois où ils ont fait un combo. Ils ont parlé en même temps de deux jeux qui sont nominés pour le Spiel.
Oh, punaise. C'est avec ça, on dit pas qu'on a une influence quand même sur le Spiel. Je pense qu'ils nous écoutent. Ils écoutent la chronique jeu du mois.
Bah oui, on a des IP allemandes là qui arrivent sur le site. Ça doit être eux, ouais.
Ça doit être le Spiel qui nous espionne.
Et donc, c'était dans l'épisode de jeu du mois de novembre.
De novembre. Donc, on l'avait déjà vu en novembre, quoi. Qu'est-ce qu'on est visionnaire.
Ouais, je sais pas quand il était sorti, par contre.
Bah, il est sorti à Essen en octobre.
Ah bah voilà. Donc tu es avant-gardiste sur ce titre.
Ils ont aussi donc dans cette catégorie Kenner Spiel Terraforming Mars. Donc un jeu
également sorti à Essen. Tu l'avais essayé ou c'est Cyrus peut-être?
Non, c'est Cyrus et Merlin qui avaient. C'est un peu gros pour moi sur les salons. J'essaie d'éviter ce niveau-là, quoi. Mais il a bien buzzé, et même depuis, il a bien buzzé aussi.
Ouais, bah il arrive en français, là,
voilà,
chez Intrafin.
Il y a eu de beaux retours, donc je pense que c'est un bon candidat.
Bah, je l'ai précommandé quand les précos sont ouvertes. C'était il y a à peu près 3 semaines, je dirais. 3 semaines, 1 mois, et il devrait normalement arriver pour fin mai.
Ok, bah, on surveillera ça. Et donc, eux, ils ont un peu de préférence nationale, donc ils n'ont pas pris Unlock, ouais. Mais ils ont quand même pris un jeu...
Leur version maison,
voilà,
leur version locale. Ouais.
Voilà, d'une escape room, donc c'est Exit, Die Verlassene Hütte. En allemand dans le texte. donc oui,
ou alors
un
Das Geheime Labor, ou dit Grabkammer des Pharao. Moi, je pense que ça va être le titre des trois scénarios.
Ouais, c'est le titre des scénarios, je pense. Donc ouais, voilà, un jeu d'escape room, comme ça, c'est assez à la mode, les escape rooms en ce moment. Et toi, ton pronostic?
Est-ce qu'ils vont suivre le l'As d'or? Dans ces cas-là, ça sera peut-être aussi Exit qui
non,
va être nominé.
Non, je pense pas. Personnellement, moi, je parierais plus sur Terraforming Mars.
Ouais, le gros jeu costaud.
Voilà. Alors, Pillard, je sais pas, j'ai pas, Je ne l'ai pas testé non plus. Enfin, j'en ai testé aucun des trois, quoi. Mais d'après les retours et connaissant un peu le public allemand, on ose des pronostics. Hein.
Ouais, après, si on prend l'aspect de tarif, Terraforming Mars, c'était quand même une boîte assez chère.
Ouais, c'est vrai que.
Je crois que la version originale était à plus de 70 euros, sans doute, sur Salon. La VF est aux alentours de 50.
Ouais, bah, ouais, ça fait quand même cher, quoi. Bah, on a bien eu Site qui a eu le l'As d'or.
Ouais, d'ailleurs, il est pas dans le trio là.
Non. Peut-être que les ils voulaient pas de Kickstarter.
Ah, tu crois.
OK. Donc toi, un petit pronostic ou
Ouais, ben je vais miser sur Terraforming Mars. Hein.
Toi aussi, tu mises sur le
voilà, sur
l'espace.
Sur le costaud, ouais.
Et après, la catégorie jeux pour enfants. Alors, je vais encore te demander une recherche parce que High School est nominé.
Bah oui, j'ai encore la page ouverte puisque c'est Cyrus qui en avait parlé.
Et c'était encore Cyrus et Benoît FX qui en ont parlé dans les jeux du mois. C'était aussi en novembre.
Ouais, en même temps que voilà. L'épisode consacré à Raider of the North Sea.
Voilà. Punaise, on fait des épisodes combo. Hein. Ouais. En fait, ils écoutent peut-être pas tout Proxy, ils doivent en prendre quelques-uns.
C'est ça.
Voilà, ils ont parlé de deux jeux, bon, on va les prendre. Hein. Ça doit être bon s'ils en ont parlé chez Proxy Jeux.
Voilà.
Donc vous aussi, faites comme les gens du Spiel et écoutez, choisissez selon Proxy Jeux. Donc High School, un jeu de Pichenette. On a aussi Captain Silver, un jeu de pirate, je dirais, de chez Queen Game. Je ne sais pas ce que vaut ce jeu.
Je ne connais pas.
Mais je crois savoir que la traduction ne doit pas être terrible. Parce que si c'est un Queen Game...
Déjà, comment ils vont traduire le titre, tu vois. Est-ce que ça sera Capitaine d'Argent?
Voilà, donc Captain Silver ou La Forêt Mystérieuse de chez Yellow, que je n'ai pas eu l'occasion non plus de tester.
Non plus, là, mes enfants grandissent, je devrais bientôt m'intéresser aux catégories enfants, mais pour le moment, ils sont encore un petit peu jeunes.
Ils sont encore un petit peu jeunes. Donc alors, qu'est-ce qu'on pronostique pour ce Spiel enfant?
Si on se réfère à...
Qui avait gagné
il y a quelques années, quand j'avais parlé du jeu Puerto Rico, lorsqu'il a été nommé, je ne sais plus en quelle année c'était, il avait été battu par un jeu d'adresse. Donc les jeux d'adresse ont peut-être la cote au niveau du Spiel. Du coup, peut-être qu'on peut miser sur High School.
Ouais, alors attends, je regarde juste l'année dernière, qui c'est qui avait gagné? Pour enfants, c'était l'âge de Pierre Junior.
Ouais, et les années précédentes, un jeu d'adresse aussi, Riff Raff avait.
Ah, mais il y avait Roberto Fraga, ouais, c'était aussi un peu de l'adresse, non? Il n'y avait pas les deux niveaux.
Gare à la Toile.
Ouais, Gare à la Toile. Qui était. Non, je crois que Riff Raff, il n'a jamais eu. Malheureusement, il n'a jamais eu le Spiel. Pourtant, il mérite, hein, parce que c'est quand même sympa. Donc. Un petit où ils iront vers du Captain Silver parce qu'il est c'est du Queen Games, c'est je ne sais pas. Alors comme on soutient un peu à Proxy Jeux, hein, on va dire que c'est High School.
Voilà,
hein.
Ouais, c'est ça.
Comme ça on pourra dire qu'on a été totalement visionnaire. Donc voilà pour nos pronostics du Spiel. On se reverra donc en juillet pour le Spiel enfant.
Donc on est passé assez vite sur les fiches de jeu, hein, mais on les mettra dans le billet où on vous mettra le lien vers le site officiel dénominé et vous aurez toutes les informations
sur les différents jeux. Donc voilà, donc en juillet pour le prix enfant et en octobre avant le salon d'Essen pour le Kenner Spiel et le Spiel.
Ça sera l'occasion d'en reparler si on refait un épisode hors série comme l'année dernière.
Ouais, bah oui, voilà. Donc voilà pour ces actus. On va donc passer à ce qui nous amène ici, les chroniques. Alors, au niveau chronique, on a eu un top 500 par toi-même.
Tout à fait.
Maxime. Alors, est-ce qu'il est vraiment dans le top 500
celui-là ? Ah, tout à fait. Là, j'ai pas triché. Je suis pas allé chercher dans les classements alternatifs.
Classement des jeux.
Ouais, des jeux thématiques, des jeux stratégiques.
Où il y a des chameaux.
Voilà. Ah, donc... le top 500 des jeux de moutons, ouais, ça doit peut-être exister.
Ouais, bah, on va écouter ce que tu as à en dire tout de suite.
Ouais, c'est parti. Bonjour les joueuses et bonjour les joueurs et bienvenue dans ce nouveau numéro de Top 500 BGG. Aujourd'hui, on voyage vers l'Orient et on va se diriger dans la ville de Jaipur où on va incarner des marchands tentant de s'enrichir en faisant du troc et en vendant des marchandises des plus communes aux plus précieuses. Jaipur est un jeu de Sébastien Pochon édité par Gameworks et illustré par Alexandre Roche. Le jeu est sorti en 2009 et le jeu est jouable uniquement à deux joueurs. C'est une petite boîte mais qui en a beaucoup sous le couvercle. Le jeu pointe à la 99e place au classement BGG et j'ai eu l'occasion de découvrir ce jeu avec Flavien lors du week-end proxy jeu en 2016, comme quoi Flavien il est toujours dans les bons coups. Et c'est un jeu qui est très facile à expliquer, l'explication de règles tient en moins de 3 minutes et les parties s'enchaînent très rapidement. La thématique centrale du jeu est le troc et la vente de marchandises. 6 marchandises au total sont disponibles, 3 communes, 3 précieuses, et la mécanique centrale s'appuie sur la prise et l'échange de cartes. Ces cartes représentent les différents types de marchandises qu'on va pouvoir collecter, et à un moment donné, on va pouvoir aller les vendre pour récupérer des jetons qui représentent les contrats associés à ces ventes. Alors si possible, il va falloir être les premiers à vendre un type de marchandise, puisque les valeurs vont décroître au fur et à mesure des ventes. On va également ramasser beaucoup de points bonus si on arrive à vendre en un seul coup 3, 4 ou 5 unités d'une même marchandise. Alors les cartes de marchandises disponibles sont représentées sous la forme d'une rivière composée de 5 cartes, et à notre tour de jeu, soit on va pouvoir piocher une carte de marchandise, soit échanger plusieurs cartes de marchandises avec des cartes de marchandises que l'on a dans sa main, donc on fait une opération de troc. Soit on va pouvoir récupérer toutes les cartes chameaux, qui représentent une petite monnaie d'échange que l'on va pouvoir utiliser plus tard lors d'une action de troc. Donc lors d'une action suivante, on pourra par exemple reposer au marché toutes les cartes chameaux que l'on a pour piocher autant de cartes marchandises. Et dès que notre main de cartes nous satisfait, on va pouvoir engager une opération de vente. Donc on va pouvoir défausser autant de cartes d'une même marchandise de sa main pour récupérer les jetons de vente associés, et avec les éventuels bonus si on en a vendu plus que deux. Alors une petite contrainte, c'est que les marchandises précieuses doivent obligatoirement se vendre au minimum par deux. Alors le jeu fait intervenir de la stratégie, un petit peu de calcul, également un petit peu de bluff. On va tenter de feinter son adversaire en lui faisant croire qu'on part sur un type de marchandise alors que en fait notre stratégie est à l'opposé. Et également un peu de mémoire, puisqu'il va falloir se souvenir quelles sont les éventuelles marchandises vers lesquelles s'oriente notre adversaire. On a aussi un léger aspect course, étant donné que les valeurs des marchandises vont décroître au fur et à mesure de la partie, et la fin de partie va être déclenchée par l'épuisement de 3 piles de contrats de vente de marchandises. Tout le matériel rentre dans une petite boîte avec un petit thermoformage, et petite déception si vous êtes un adepte du dépunchage, l'ensemble du matériel arrive dépunché, donc en fait le jeu est prêt à l'emploi. Alors n'hésitez pas à découvrir Jaipur si comme moi vous étiez passé à côté au moment de sa sortie, ou si vous n'étiez pas encore joueur à l'époque. Quant à moi, je vous dis à très bientôt dans un nouveau numéro, et d'ici là, troquez bien.
Merci Maxime pour cette petite chronique sur Jaipur, un jeu bien sympa à deux.
Ouais, franchement, c'est un jeu à avoir si vous jouez
couple.
Vous jouez souvent à deux, ou ouais. Si un de vos potes vous fait faux bon pour une soirée, c'est toujours l'assurance de quand même pouvoir bien jouer à deux.
Ouais. Et en plus, c'est une petite boîte. Et il y a des chameaux pour si vous aimez les chameaux.
Ouais. Et même mon épouse qui est pas très joueuse, elle apprécie le jeu. Mais je pense que c'est les diamants qu'il y a à l'intérieur.
Ah, c'est ça. Ça c'est des femmes.
Voilà, c'est ça.
On va se faire traiter de sexiste à raconter des choses comme ça.
Et je le vois pas dans ta ludothèque. Tu l'as, Jaipur ?
Oui, je l'ai. Il est avec les petits jeux cachés.
Ah, tu les exposes pas, tu montres que les grandes boîtes, hein, c'est ça ?
Ouais, ouais, ouais. Il y a plus à montrer. Mais oui, je l'ai aussi, celui-là. Ensuite, un plateau numérique. Alors, c'est Fendoel qui va nous présenter Bazar Bizarre.
Bonjour les joueuses, bonjour les joueurs, je suis Fendoel, bienvenue dans ce nouveau numéro des plateaux numériques. Dans ce numéro, je vais vous parler de Bazar Bizarre, qui est un jeu de Jacques Zemmet, édité par Gigamic en 2011. C'est un auteur luxembourgeois, qui l'on doit beaucoup de petits jeux familiaux. Il est illustré par Gabriela Silvera, qui a notamment illustré Kikou le Coucou, As d'or du jeu de cette année 2017. Il y a eu également de nombreuses éditions, rééditions de Bazar Bizarre. C'est un jeu que vous pouvez trouver au format papier chez Philibert. Il s'agit d'un jeu de rapidité pour 2 à 8 joueurs. Il est composé d'un tas de cartes et de 5 objets. Un fantôme blanc, une souris grise, un livre bleu, une bouteille verte et un fauteuil rouge. À chaque tour, un joueur va retourner une carte et les autres joueurs, et tous les joueurs en fait, devront se saisir du bon objet. Celui qui se saisit du bon objet gagne la carte. Celui qui se saisit du mauvais objet donne une de ses cartes au joueur qui a saisi justement le bon objet. Et à la fin de la partie, celui qui a le plus de cartes gagne la partie. Alors comment se saisir du bon objet ? En fait, c'est très simple. Chaque carte représente 2 objets, chacun dans une couleur qui peut être soit la bonne, par exemple le fantôme blanc, d'accord ? Dans ce cas-là, il faudra se saisir du fantôme blanc, soit une couleur erronée, par exemple un fantôme rouge et une bouteille bleue. Et en fait, le fantôme rouge et la bouteille bleue indiqueront qu'il faudra se saisir de l'objet qui n'est pas désigné ni par sa couleur ni par sa présence. Donc en gros, si j'ai mon fantôme rouge et ma bouteille bleue, bah, il faudra se saisir de la souris grise, tout simplement. Voilà, donc c'est un petit jeu de rapidité. Les règles, en fait, sont très bien expliquées. On verra ça un petit peu plus tard. Donc pour le portage, bah, il s'agit de Terra Infinity UG, que l'on connaît bah, pour pas grand-chose, en fait. Ils ont fait un jeu qui s'appelle Riverty, qui est sorti sur iOS, mais il est a priori, j'ai pas réussi à en retrouver la trace. Et ils ont également sorti un jeu pour l'App Store du Leap Motion, si ça vous dit quelque chose. Tant mieux. Le jeu est sorti en 2014, simultanément sur Android et iOS, et il est gratuit, mais il y a quelques petits messages publicitaires, on en reparlera. Alors le jeu est disponible en 12 langues, ouais 12. Nous avons également droit à un excellent tutoriel en français, c'est rapide, c'est efficace. Juste une remarque, il parle en français de cliquer, alors bon, on l'a compris, il s'agit de toucher l'écran de l'appareil. Et après le tutoriel, ils enchaînent directement vers une partie solo, où on doit se battre contre la montre, et quand on a perdu, ben on a notre score qui s'affiche. En fait, le jeu est complètement tourné vers du compétitif. Ben, on peut comparer son score avec ses amis Facebook, on peut comparer son score avec des classements mondiaux. Une fois la partie terminée, on retourne à l'écran d'accueil qui est un manoir hanté qui permet d'accéder aux 3 modes de jeu. Alors les modes de jeu, ben, c'est très simple, vous avez tout d'abord le mode solo qui permet, comme son nom l'indique, de jouer tout seul contre la montre. Le temps pour trouver la bonne pièce en la touchant tout simplement s'accélère au fur et à mesure, hein, il y a différents paliers. Et comme le jeu n'est pas méchant, il y a une sorte de continu. D'accord, comme pour les jeux vidéo, hein, où voulez-vous continuer, etc. Si vous remettez une pièce, bah là, tout simplement, vous pouvez continuer 5 fois par jour, et au-delà, en fait, il faut voir une petite vidéo. Donc c'est là le côté un petit peu freemium dont je parlais plus tôt. Donc, si vous avez perdu, vous pouvez partager sur Twitter, Facebook, etc. Il y a également un mode qui est dit mode classique, hein, contre des IA, ou contre d'autres humains, présents dans la même salle que vous, ou sur le net. Alors il existe 4 niveaux d'IA, et je doute fortement que qui se soit battre l'IA la plus rapide. En tout cas, j'y suis pas arrivé. Si ça vous arrive, chapeau. Voilà. Alors, petite remarque, contre d'autres humains, il existe 2 systèmes pour faire glisser l'objet vers soi. Un qui s'appelle cliquer, l'autre qui s'appelle glisser. On peut passer de l'un à l'autre. Et j'ai personnellement eu des difficultés avec le mode cliquer. Donc, changer le mode de jeu en mode glisser, à mon avis, ça sera plus simple pour vous. Dernier mode, le mode monde, qui permet de se mesurer à d'autres humains à travers le globe. Alors, franchement, quand ça marche, parce que ça m'est déjà arrivé que les serveurs étaient arrêtés, d'ailleurs, c'est le cas au moment où j'enregistre cette chronique, franchement, quand ça marche, c'est vraiment pas mal. Et c'est assez rigolo de penser qu'il y a d'autres humains quelque part sur Terre qui sont en train de jouer contre nous. L'interface propose aussi d'autres fonctionnalités, comme couper le son, la musique. Alors la musique est vite oubliable, hein, comme d'habitude. Le son, ça peut avoir de l'intérêt. On a également un bouton en forme d'ampoule qui permet d'expliquer l'interface. On a un bouton d'aide pour relire les règles et refaire le tutoriel si besoin, également voir les crédits. Un bouton avec l'ensemble des classements, vos statistiques, c'est toujours intéressant, et vos succès. Sachez que ma réponse la plus rapide a été de 1 seconde 0,44 en mode solo. Donc n'hésitez pas à nous donner vos scores dans les commentaires. Les options de jeu également pour augmenter ou non la durée de partie, changer la langue, il y a aussi le mode carte simple pour les jeunes joueurs. Alors ça c'est utile, hein. Si vous jouez avec des enfants, vraiment je vous recommande. C'est là que vous pouvez passer du mode cliquer au mode glisser dont je parlais précédemment. Et enfin, vous pouvez changer de profil histoire de ne pas mélanger tous les scores de votre famille. L'ergonomie globalement est OK. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, bah, comme je dis plus tôt, en fait, il y a vraiment l'histoire du glisser là qui est pour moi un petit peu énervant. Mais si vous jouez en solo ou si vous jouez contre des intelligences artificielles, il n'y a pas de difficulté particulière. Donc ce que j'en pense, le jeu est gratuit avec un petit aspect freemium, mais alors vraiment petit, ce qui n'est pas du tout pour me déplaire, vous le savez. Surtout que l'aspect freemium n'a de sens que en solo et en fait, si vous voulez pas continuer votre partie, tout simplement vous la recommencez depuis zéro et puis c'est tout. Mais vous vous amusez toujours autant. Le jeu, il faut bien comprendre que c'est un jeu qui est tout simple. Vous attendez pas un truc compliqué. Il s'agit clairement d'un jeu familial pour passer du temps et on peut aussi y jouer avec de jeunes enfants. Donc sachez aussi que c'est un jeu de rapidité, il y a certaines personnes qui n'aiment pas ça. Moi franchement, j'ai téléchargé cette application, elle fait 73 mégas sur Android et je crois un petit peu plus de 100 mégas sur iOS, et je l'ai toujours sur mon téléphone ou ma tablette pour passer le temps. Bref, je vous recommande fortement de la télécharger. À la prochaine chronique, jouez bien!
Donc bazar bizarre, jeu d'observation, de rapidité.
Jeu d'observation, de rapidité, ouais.
Moi je me méfie les jeux de rapidité, d'observation sur tablette, parce que si t'appuies un petit peu trop fort, le truc te glisse des mains, ouais, et tu te retrouves avec ça. La tablette par terre, t'as tout gagné.
Non mais je pense qu'en solo ça doit aller, faut repérer le truc, tu cliques dessus, ça marche, mais... En multi, j'ai peut-être un peu peur parce qu'il dit faut tirer vers soi. J'ai peut-être un peu peur que si tu vas un peu vite, t'emmènes pas le téléphone. Et le téléphone qui vole. Jeu de rapidité, ouais, sur tablette, c'est un peu. Je pense en solo, ça doit être sympa.
Ouais.
Et donc, on vous encourage à aller battre le score de Fenduel. 1 seconde 04, donc score à battre.
Attends, c'était le high score dans le jeu ou son high score à lui?
C'est son high score à lui.
Ça sera à vérifier, ça. Faut voir s'il nous a. Ah. Il n'a pas essayé de nous arnaquer, là.
Non, t'es très rapide, Fendel. Il a l'esprit vif. Et en parlant d'esprit vif, on a Courju qui va nous présenter trois nouveaux jeux de chez Good Little Game. Donc Good Little Train et Good Little Ninja. Ça fait deux jeux.
Et des petits jeux à crafter. Ouais.
Voilà. Et il y en avait un autre qui n'a pas testé. C'était Good Little, je ne sais plus trop quoi. Enfin, un Good Little, vous allez l'écouter tout de suite.
Clic, ploc, clic, ploc, clic, ploc. Ça va trancher, chérie!
Mais non, qu'est-ce que tu fais? Il faut dire ça va couper, chérie, pas ça va trancher.
Ah bon?
Mais oui, t'étais où pendant le film, toi?
Ah mais non.
Je vous avais prévenu, ça va trancher.
Salut les joueurs, salut les joueuses, les bricoleurs et les bricoleuses. Ici Courju pour une chronique Print and Play. Pour cette chronique, je vais vous parler du projet de deux auteurs anglais, Brett Gilbert et Matthew Dunstan. Donc Brett Gilbert, il est connu pour avoir travaillé sur Elysium, Costa Rica, Divinare. Matthew Dunstan, il est connu pour aussi avoir travaillé avec Brett Gilbert sur Elysium, Costa Rica, et pour avoir été l'auteur de Relic Runner. Leur projet, c'est Good Little Games. C'est un projet qui a vu le jour il y a quelque temps déjà, et qui avait comme objectif de regrouper des petits jeux d'auteurs divers. Donc eux, ils faisaient un petit travail d'édition et de gestion de collection et regrouper ces jeux. Ils avaient fait un site goodlittlegames.co.uk et ça avait un peu périclité. Et là, ils ont relancé le projet très récemment en lançant en même temps un Patreon. Donc leur objectif, c'est de publier en gros un jeu par mois. Ce coup-ci, ça sera eux les auteurs à chaque fois. Il n'est pas exclu qu'il y ait des collaborations futures, mais pour l'instant, ils sont partis sur l'idée de faire eux des jeux. Tous leurs jeux sont publiés sur le site, disponibles en print and play, format PDF. Et il s'agit toujours de petits jeux. Donc en gros, c'est en général trois pages de cartes à imprimer et quelques dés ou du matériel à trouver comme ça, c'est simple. Donc là, ils ont relancé le projet. Ils ont sorti déjà trois jeux depuis qu'ils ont relancé le projet. Good Little Trains, Good Little Ninjas et Good Little Martians qui vient tout juste de sortir. Donc j'ai testé les deux premiers, je vais vous en parler rapidement. Et puis je vous donnerai tous les liens pour aller voir ça et supporter éventuellement leur Patreon. Alors Good Little Trains, c'est un jeu pour 2 à 4 joueurs qui dure à peu près 20 à 30 minutes. Donc il est 26 cartes à jouer, et puis ensuite il faut des petits jetons, des petits trains éventuellement. Enfin, moi j'ai utilisé des petits trains, mais on pourrait utiliser des pions à la place. Et des pièces, ou un moyen autre de compter les sous, ainsi que un bout de papier pour compter les points à la fin du jeu. Donc le principe de Good Little Train, c'est qu'il y a un plateau de jeu qui est constitué avec ses cartes et des rails entrecroisés. Et tout autour du plateau de jeu, il y a des gares qui ont des couleurs. Et le but, ça va être donc pour les joueurs de déplacer leur train de gare en gare. Chaque fois qu'ils arrivent dans une gare, ils vont laisser l'un de leurs cubes. Et ils vont pouvoir, à chaque tour de jeu, modifier éventuellement le tracé des petits rails. Dès que toutes les gares d'une couleur ont au moins un cube, on compte les points pour ces gares. Et en fait, celui qui a le moins de cubes dans cette gare ne marque aucun point. Et les joueurs qui en ont plus que lui marquent en nombre de points la différence de cubes qu'ils avaient par rapport à ce joueur. De plus, à chaque fois qu'un joueur déclenche comme ça un décompte, il gagne une pièce de monnaie, et à la fin de la partie, celui qui en a le plus gagnera des points supplémentaires. Le jeu continue comme ça jusqu'à ce que les 10 pièces de monnaie aient été attribuées, donc que 10 décomptes aient eu lieu. On fait le tour du nombre de points et la partie s'arrête. Donc c'est un jeu qui est plutôt simple à jouer, mais il faut suivre les rails, donc il y a un petit côté un peu comme Razon 2 Roboton, petit côté, il faut arriver à imaginer où va aller son train avant de jouer. Donc voilà, Good Little Train, c'est un jeu pour 2 à 4 joueurs, pour une durée d'à peu près 20 minutes, et donc un jeu de Brad Gilbert et Matthew Dunstan. Deuxième jeu qu'ils ont sorti récemment, Good Little Ninjas, toujours pour 2 à 4 joueurs, plutôt pour une durée de 30 minutes ce coup-ci. Donc là, on est dans une thématique village au Moyen-Âge japonais. Le principe, c'est que on va drafter des actions, des cartes actions. Sur chaque carte action, il y a trois périodes, le matin, l'après-midi et le soir. Certaines cartes n'ont pas d'action pour certaines périodes. On va drafter ces cartes jusqu'à ce que chaque joueur en ait récupéré quatre. Et parmi ces quatre, il va en choisir trois. Une pour le matin, une pour le midi, une pour le soir. Il va pouvoir réaliser les actions qui sont dessus. Et les actions vont permettre de construire des bâtiments qui vont, on va dire, mettre en route une espèce de moteur pour que les tours d'après, il ait des ressources gratuites, récolter du riz pour gagner de l'argent, piller un trésor pour gagner encore plus d'argent. On joue comme ça pendant 7 tours, et à la fin, celui qui a le plus d'argent a gagné. Donc là, on est encore une fois sur un jeu très simple à construire, 27 cartes. Ensuite, il faut que chaque joueur ait 7 jetons à sa couleur pour marquer les bâtiments qu'il a construits, et il faut une cinquantaine de pièces d'argent ou un peu plus. Donc, Good Little Ninjas, 2 à 4 joueurs, environ une demi-heure de jeu. Et donc là, ils viennent de sortir Good Little Martian. Donc celui-là, je ne l'ai pas testé. Je vais vous dire juste ce que je vois sur leur site. Un ou deux joueurs, un jeu coopératif de survie pour deux joueurs ou solo, qui dure 30 minutes. Et donc là, la thématique, c'est que l'un des joueurs est sur Mars, et donc va devoir gérer les ressources à sa disposition. Et l'autre joueur est le Mission Control, donc sur Terre, et va pouvoir l'aider. Donc là, pareil, c'est 27 cartes, il faut 5 petits jetons et un dé à 6 faces. Donc encore un jeu très simple à fabriquer. Mais celui-là, je ne peux pas vous en dire plus parce que je ne l'ai pas testé. Mon avis sur ces jeux et sur ce projet, en fait, je suis très content qu'ils aient repris le projet et qu'ils le fassent ensemble tous les deux. Parce que même si leur sélection de jeux, à l'époque où ils prenaient des jeux d'autres auteurs, je trouvais que les jeux choisis étaient assez, assez bons, là, le fait qu'ils le fassent tous les deux, il y a une vraie cohérence de gamme. Les jeux ont vraiment une... C'est plus ou moins tous des Eurogames, on va dire. Et les jeux ont une vraie cohérence entre eux. Donc ça, vraiment, ça devient une vraie gamme. On peut imaginer un peu comme la gamme mini de chez Yellow. Moi, je trouve que Good Little Train, c'est très bien pour jouer avec des enfants. J'ai joué en particulier avec ma fille, qui finalement, parfois, avait pas trop envie de se prendre la tête. Donc tout simplement, elle regardait où son train il allait. Elle s'embêtait pas à changer le parcours. Puisqu'en fait, le seul choix que vous ayez dans le jeu, c'est au début de votre tour, est-ce que je change le parcours ou non? Et si je le change, évidemment, là, je vais avoir à décider comment je le change. Mais du coup, il peut être très simple pour jouer avec des enfants. Good Little Ninja, donc comme c'est du draft, il y a tout le côté, comme on a l'habitude, j'ai déjà vu passer cette carte, est-ce que je lui laisse passer celle-là, etc. Et après, le jeu est assez court, donc finalement, ça va très bien pour faire une milieu de soirée ou ce genre de choses. J'aime beaucoup le principe de, on a une action pour le matin, une action pour le midi, une action pour le soir. Par contre, ça forcément, ça limite un peu les choix pendant le draft, parce que par exemple, si vous avez déjà drafté 3 cartes, mais que vous n'avez aucune action pour le midi, ben en gros, vous n'allez pas choisir une action pour le soir, vous allez choisir une action pour le midi, pour être sûr d'avoir quelque chose le midi. Et du coup, ça limite un petit peu le draft. Mais le jeu fonctionne bien, le choix des bâtiments est assez intéressant, il y a vraiment des stratégies très diverses. Et ouais, il y a une bonne profondeur pour un petit jeu comme ça. Voilà, donc c'était donc une petite présentation rapide du projet Good Little Games. Donc, évidemment, vous aurez les liens sur le billet. Et je vous invite à aller voir de près, y compris parmi les anciens jeux qu'ils ont fait. Vous avez peut-être entendu parler de The Empire Engine, de Chris Marling et Matthew Dunstan, qui entre-temps a été édité. Pocket Imperium aussi, qui a été édité. Et puis, je crois que c'est tout parmi les jeux qui ont été édités par la suite. Mais il y a quelques autres jeux qui sont assez sympas quand même dans la sélection, que moi j'avais bien aimé en tout cas. Donc allez faire un tour, faites votre petit marché, et puis voilà, c'est des jeux très simples à fabriquer, à imprimer, donc il n'y a aucune barrière. Voilà, maintenant vous savez quoi faire de vos 10 doigts, alors jouez bien!
Merci Courju pour cette chronique, et donc c'était, vous l'aurez remarqué, Good Little Martian. Donc les petits martiens,
les petits hommes verts,
les petits hommes verts qui n'a pas eu l'occasion de tester et que j'avais zappé du coup. Donc on remarque que cet éditeur Good Little Game a un peu une ligne directrice au niveau des noms de ses jeux, non? Voilà, donc
bon, au moins
c'est clair quoi.
Ouais, et en plus c'est un nom qui est pas désobligeant quoi.
Bah oui,
c'est pas comme tu disais gros jeu de merde ou un truc comme ça.
Ok, ensuite c'est notre nouveau chroniqueur Sébastien qui nous parle de Bubble Pop, un jeu de
chewing gum,
de banquise de banquise édition où il faut faire un peu du Candy Crush. Je sais pas si t'as déjà joué à des jeux comme ça, toi.
Ah non.
Non, t'as pas testé Potion Explosion.
C'est le truc avec les tubes à essai là.
C'est le truc avec des billes, des billes sur une rampe, un peu comme du Candy Crush. Et tu les prends et si t'en alignes 3 après, hop, tu peux en récupérer plus et remplir des petites potions. C'était un jeu Cranio.
Ah, je comprends.
Où ils avaient eu des trucs, des problèmes de conception à Essen, où ils donnaient un punch en plus pour corriger leur truc. Mais donc là, c'est pas Potion Explosion, c'est bien Bubble Pop dont il va nous parler. À toi, Sébastien.
Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter un autre de mes coups de cœur, découvert tout récemment, Bubbly Pop. Bubbly Pop est un jeu pour deux joueurs, de Grégory Oliver, illustré par Alexei Rudikov et édité par Banquise Édition. Vous pouvez le trouver chez Philibert au prix de 17,50€. Si vous avez déjà joué à un jeu vidéo de type Match 3, comme Columns, Candy Crush Saga ou Dr. Mario, vous savez jouer à Bubbly Pop. Dans le cas contraire, pas de panique, les règles sont extrêmement simples. Un plateau tout en longueur est placé entre les deux joueurs. De part et d'autre de celui-ci, une planète, composée de 20 emplacements en forme de petites bulles. Et entre les deux, le ciel, composé lui de 10 emplacements, chacun occupé par un bubbly. Un quoi ? Un bubbly, une petite créature ronde et colorée, ou, pour parler plus clairement, une petite tuile circulaire d'une des 5 couleurs du jeu. À son tour, le joueur va réaliser 2 actions. La première, facultative, lui permet d'intervertir 2 bubblies adjacents dans le ciel. La seconde, obligatoire quant à elle, consiste à choisir 2 bubblies adjacents du ciel qui vont tomber de son côté du plateau pour remplir les petites bulles. Si après cette chute, un alignement d'au moins 3 bubblies adjacents et de couleur identique s'est formé, ils sont retirés du plateau et placés dans la zone de score du joueur, puis un effet, dépendant de leur couleur, est déclenché. Les bubblies rouges, par exemple, permettent de mettre la pagaille sur la planète d'en face, les violets permettent d'envoyer l'un de ces bubblies chez l'adversaire, etc. Puis c'est au tour du joueur suivant. Il commence par remplir l'un après l'autre les espaces laissés vacants du ciel, en piochant à l'aveugle des bubblies dans un sac, puis il joue son tour en réalisant ses actions. Et ainsi de suite, jusqu'à ce que l'une des 2 conditions de fin de partie se déclenche. Soit la planète d'un des joueurs est pleine et il perd la partie, ou alors il n'y a plus assez de tuiles dans le sac pour remplir le ciel, auquel cas c'est le joueur en ayant scoré le plus qui remporte la victoire. C'est aussi simple que ça, à quelques détails près que je ne vais pas évoquer ici. J'avoue, je n'étais pas très emballé par Bubbly Pop avant d'y jouer. Le précédent jeu de l'éditeur, Dino Twist, était sympathique mais sans plus. Et même si j'aime beaucoup les jeux vidéo de type Match 3, une adaptation de ce principe en jeu de plateau me laissait perplexe. J'ai suivi l'explication par hasard au détour d'une soirée jeu, et j'ai immédiatement accroché. Contrairement à ce que je redoutais, le principe fonctionne parfaitement. On intervertit les bubblies pour préparer son coup, ou pour gêner l'adversaire. On prépare des combos de plusieurs couleurs, en croisant les doigts pour que l'autre joueur ne vienne pas tout gâcher. On peste quand on ne pioche pas la bonne tuile pour remplir le ciel avant de jouer notre tour, etc. Bref, on s'amuse. Les tours de jeu sont extrêmement rapides, même s'ils demandent de la réflexion, et on ne s'ennuie pas pendant que l'autre joue. Il est même possible d'adapter le jeu si les 2 joueurs n'ont pas le même niveau, grâce à un système d'handicap basé sur les bubblies noirs, qui contrairement aux autres, ne sont pas retirés du jeu quand on en aligne 3. Le joueur expérimenté commencera la partie avec 1, 2 ou 3 de ses tuiles de plus que son adversaire. A noter également un mode solo où il faut résoudre 20 niveaux de difficulté croissante. Ce n'est pas ce que je préfère dans ce jeu, mais ça fonctionne. J'ai tout de même quelques petits reproches à formuler, mais rien de rédhibitoire comme vous allez le voir. Le premier concerne le plateau de jeu, qui est, je trouve, assez moche. C'est d'autant plus dommage que les bubblies sont eux très joliment illustrés, avec de rigolotes et mignonnes petites têtes, et toutes ou presque différentes les unes des autres. Mais tout cela est évidemment subjectif. Et surtout, on y prête guère attention une fois la partie commencée. En tout cas, le matériel est de bonne qualité, avec du carton bien épais, aussi bien pour le plateau que pour les tuiles. Le second reproche concerne l'aide de jeu, qui récapitule les pouvoirs des différentes couleurs de bubblies. Autant le dire tout de suite, on n'y comprend pas grand-chose, les couleurs et les symboles étant mal choisis. Mais la bonne nouvelle, c'est que d'une part, les explications textuelles sont quant à elles très claires et limpides, et que d'autre part, cette aide devient inutile au bout de 2 ou 3 parties, les pouvoirs étant somme toute simples à comprendre et à retenir. Le dernier reproche n'en est pas vraiment un, ou plutôt je ne le partage pas. Mais certains joueurs à qui j'ai fait découvrir le jeu considèrent que le hasard de la pioche est trop prépondérant. Je trouve pour ma part qu'au contraire, ce hasard donne tout le sel au jeu, qu'il permet parfois de se sortir de situations inextricables et évite de longues phases d'analysis-paralysis, tout en donnant sa chance à un novice face à un joueur habitué. Vous l'aurez compris, je vous recommande chaudement Bubbly Pop. Il est extrêmement agréable à jouer, ses règles sont très simples et les pouvoirs, passés les 2-3 premières parties, sont très faciles à mémoriser. Les parties sont courtes, mais le jeu est très addictif et on s'arrête rarement après la première. Une revanche, puis une éventuelle belle, sont quasi systématiques. Il demande de la réflexion, mais comporte cette petite touche de hasard qui le rend accessible à tout le monde, quel que soit son niveau. Ajoutez à cela un prix abordable pour presque toutes les bourses, et vous obtenez un jeu idéal à ajouter à votre ludothèque. Que demander de plus ? Une extension, clame la foule en délire. Ça tombe bien, elle devrait arriver en septembre, avec de nouveaux bubblies et de nouveaux pouvoirs. Bref, si vous aimez les petits jeux à 2, simples et rapides mais profonds, donnez sa chance à Bubbly Pop, il ne vous décevra pas. Sur ce, rendez-vous normalement le mois prochain pour une nouvelle chronique, et d'ici là, popez bien et surtout, jouez bien.
Merci Sébastien pour cette présentation encore. Donc on a hâte de t'entendre pour la prochaine. Et ensuite, comme il fait beau, que c'est la saison.
La saison des brocantes.
La saison des brocantes. Donc on a Dany qui nous a présenté qui va nous présenter un superbe jeu, Catch Catch. Et on va l'écouter tout de suite.
Salut à tous. Alors, pour cette chronique, j'ai choisi de vous parler du jeu Catch Catch, sorti par Fernand Nathan en 1977. Ça fait partie des jeux que j'avais à la maison quand j'étais petite et que j'avais complètement oublié, avant de les retrouver en vide-grenier. C'est un jeu qui oppose deux équipes de deux joueurs, les bergers qui gardent leurs moutons et les chasseurs qui jouent un aigle. Les bergers doivent mettre les moutons à l'abri et l'aigle doit en bouffer le plus possible. La particularité de ce jeu, c'est qu'un joueur de chaque équipe a les yeux masqués et c'est son coéquipier qui le guide pour réaliser les actions. Pour mettre à l'abri les moutons, le joueur utilise une tige avec un cercle rigide au bout. Il faut donc arriver à encercler chaque mouton et à le faire glisser de son côté du plateau. Pour chasser les moutons, l'autre équipe utilise une tige avec un fil et un aigle aimanté au bout, qui va littéralement choper les moutons au vol. L'équipe qui a le plus de moutons à la fin de la partie gagne. C'est un jeu que je trouve vraiment très sympa et pas seulement pour son côté Madeleine de Proust. Il faut que les joueurs se coordonnent, s'écoutent pour être efficaces et rapides. C'est un bon exercice pour les plus petits. Les parties sont courtes et le matériel est très sympa. Le fait de jouer les yeux masqués reste assez rare finalement et ça donne de l'originalité au jeu. Il y a un jeu chez Ravensburger de la même époque qui s'appelle Tactile et qui propose aussi ce mode de jeu. Les joueurs ont un masque et doivent piocher des pièces en carton dans un sac. S'ils devinent ce que représente le carton découpé, ils gagnent la pièce. C'est certainement un ancêtre de Maître Renard, sorti il y a quelques années chez Superlude. Il fonctionne bien aussi, mais il n'y a pas ce côté travail en équipe qui est particulier dans Catch Catch. Je tiens quand même à préciser que j'ai pas choisi ce jeu spécialement pour mon collègue Dédé Schutz, même s'il y a des moutons et un jeu de mots d'à peu près sur le titre. Catch Catch faisant référence au jeu cache-cache entre les moutons et les aigles, pour ceux qui n'auraient pas fait le lien. Comme d'habitude, ce n'est pas un jeu que vous trouverez chez Philibert. Vous devrez parcourir les vides-greniers et les magasins d'occasion pour le trouver. L'avantage, c'est qu'on est en pleine saison pour les trouvailles du dimanche matin. Je souhaite donc bonne chance à ceux qui partent à la chasse au trésor. Et d'ici dimanche, jouez bien!
Merci Dani pour cette chronique sur Catch Catch, un jeu de moutons. Je suis honoré qu'on pense à moi, qu'on fasse des chroniques avec des jeux de moutons. Ça me fait toujours plaisir. En plus, tu as l'air sympa, ou t'as un joueur dans l'équipe qui a les yeux bandés et l'autre qui doit le guider. Ça doit être assez fun, quoi. Donc, on vous encourage à aller le chercher sur les brocantes.
Mais par contre, après, il faut avoir la garantie qu'il soit complet. Hein, parce ouais. que ça risque d'être non, un peu plus délicat. Bander les yeux, ça va, tu mets un chiffon. Mais...
Non, mais si tu vois pas, de toute façon, si voilà. il manque, comme tu as les yeux bandés.
Oh. Ah bah c'est ça, oui. Il te manque la moitié des moutons. Tu dis, mais je comprends pas, j'arrive pas à en choper un seul.
Donc voilà. Alors ensuite, on a une double chronique. C'est Olivier qui nous présente le 6 qui prend. Enfin, non, pas vraiment le 6 qui prend, mais vendredi 13.
Une variante.
Voilà. On vous laisse l'écouter tout de suite.
Bonjour les joueuses et bonjour les joueurs. Je suis Olivier DPJ et aujourd'hui, je vais vous parler de 6 qui prend, de vendredi 13. Vendredi 13 est un jeu de Rainer Knizia, édité chez Le Scorpion Masqué, à partir de 8 ans, une partie de 30 minutes pour 3 à 6 joueurs. Le principe est hyper simple, on va constituer 3 tas, un tas d'échelles, un tas de miroirs, un tas de chats noirs avec des cartes dont la valeur va de 1 à 7. On va pouvoir aussi jouer des cartes vendredi 13. Les cartes vendredi 13 sont des jokers qui peuvent être joués sur n'importe quelle pile et qui valent 4 dans le décompte de la pile. Et chacun son tour, on va devoir poser une carte sur un des 3 tas. Sachant que si la valeur du tas, la valeur totale du tas, dépasse 13, on va récupérer l'ensemble des cartes constituant ce tas. Le jeu se déroule en 4 manches. À la fin de chaque manche, on va compter le nombre de cartes dans chaque catégorie. La catégorie chat, les miroirs, les échelles. Celui qui aura le plus de cartes de chaque catégorie va les défausser. Et on va compter un point par carte restant pour les autres. Petit bémol pour les cartes vendredi 13 qui, elles, valent 2 points. Vendredi 13 est loin d'être un jeu idiot ou mécanique. On est parfois contraint de poser ses cartes sur des piles qu'on ne veut absolument pas prendre. Mais en temporisant, en jouant bien ces vendredi 13, et puis en jouant sur les 4 manches, il est possible de maîtriser au moins en partie le cours du jeu. Donc pour ceux qui se sont lassés du 6 qui prend, je vous conseille vendredi 13. C'est un jeu de Rainer Knizia, un jeu épuré, un jeu simple pour toute la famille à partir de 8 ans, un jeu court, moins 30 minutes, et qui peut se jouer à nombreux 3 à 6 joueurs. Et c'est vendu 10,90€ chez Philibert.net.
Merci Olivier pour cette présentation de Vendredi 13.
Donc c'est un jeu de chance.
Voilà, ouais. C'est un jeu de un 6 qui prend like. Voilà, c'est un peu une. C'est devenu une marque de fabrique. Donc Olivier se devait, en tant que bon proxy-jeusien, de tester et de nous faire un retour sur ce jeu.
Mais on attend surtout la chronique du X qui prend.
Ah, le X qui prend. Ouais, mais ça, je souhaite à personne de jouer à ce jeu. Moi qui ai joué.
En plus, sur SN, quoi.
Ouais, en plus.
T'as osé gaspiller un temps de jeu sur ça pour jouer ça.
Ah mais voilà, ah mais parce que sinon fallait l'acheter quoi. Ça j'ai bien fait de pas. Ben en fait, et comme Olivier il trouvait que c'était pas assez, il nous a fait une deuxième chronique sur Zelda Breath of the Wild. En fait.
Donc voilà, est-ce le nouveau jeu de gestion comme il le dit, c'est le nouveau Agricola, le nouveau Great le nouveau Western Trail, c'est Zelda Breath of the Wild.
Non, c'est en fait il a beaucoup joué à des jeux vidéo à ce jeu vidéo comme tous ceux qui ont joué à Zelda et ils ont tous passé beaucoup d'heures. Flavien on a je sais pas s'il en a déjà parlé dans un thermo
il cherchait justement des candidats avec qui
on parlait
voilà avec qui échanger
mais donc vous l'entendrez bientôt sur son podcast faire un long épisode là-dessus et donc Olivier a aussi beaucoup joué et ça lui a voilà ça lui a donné envie de faire une chronique un peu sur les parallèles entre le jeu de société et...
Voilà, quelles sont les mécaniques qu'on va retrouver ? Parce que là, on pourrait se demander, mais...
Quel est le lien ?
Quel est le lien ? Voilà, pourquoi parler tout d'un coup d'un jeu vidéo ? Et il essaie de faire le...
Il nous avait beaucoup parlé aussi de League of Legends. On sait qu'il est fan de jeux vidéo, quoi.
Ou même d'Ingress, à l'époque.
Ou même d'Ingress,
et même nous, l'année dernière, lors d'épisodes hors-série, on a fait un long volet sur Pokémon.
Sur Pokémon, comme quoi... Mais donc, lui, oui, voilà, il fait un peu... C'est un peu de game design autour de Zelda. Eh ben, on va l'écouter tout de suite.
Bonjour les joueuses et bonjour les joueurs, je suis Olivier DPJ et je joue à Zelda. En fait, je me suis mis à jouer à Zelda en 2017 avec Zelda Breath of the Wild. J'ai acheté la Switch, j'ai acheté le jeu et j'ai joué à peu près 115 heures et j'ai recommencé. Et donc, je voulais aujourd'hui vous parler de Zelda, mais pas forcément... du jeu vidéo Zelda, ou pas que du jeu vidéo Zelda. Je voulais aussi faire le lien entre les mécanismes qui sous-tendent le jeu vidéo et ceux qu'on peut retrouver dans le jeu de société moderne. Parce qu'il y en a beaucoup, et ils sont très intéressants, ça me semblait intéressant de pouvoir vous en parler. Et puis il faut pas s'en cacher, j'ai tellement joué à Zelda que j'ai pas beaucoup joué à autre chose, et j'aime tellement Zelda que j'ai très envie de vous en parler. Mais bon... Jeux de société et jeux vidéo partagent beaucoup de points communs, si tant est qu'il y a de nombreux ponts entre le jeu de société et jeux vidéo. Il y a 2 ans, on a fait un podcast avec Étienne Mineur sur World of Yo. L'idée, c'était d'utiliser des smartphones, d'émuler les bateaux des pirates avec des smartphones. Les animations, l'intelligence artificielle qui était liée aux quêtes, le background était géré par les smartphones. Et donc, on a retrouvé un bout de jeu vidéo dans le jeu de société. Et puis, l'année dernière a été lancé un Kickstarter par Serious Pulp, Seventh Continent. Et là aussi, on retrouve du jeu vidéo dans le jeu de société. Pas parce qu'on va retrouver des écrans, mais parce que le jeu est censé avoir la durée et pouvoir s'étendre comme un jeu vidéo. C'est-à-dire qu'il nous donne la liberté, il nous permet des choses, et il nous permet de faire des sauvegardes, de s'arrêter, de pouvoir reprendre la partie où on l'avait laissée. Et puis pour finir cette toute petite liste, parce que je pense qu'il y en aurait d'autres, mais je voulais parler de Parsley, Parsley Game. Parsley Game est inspiré directement du jeu vidéo. Le jeu vidéo textuel, le jeu vidéo des années 90, où on n'avait pas les belles animations, on n'avait pas la 3D, on n'avait pas la direction artistique de Nintendo, mais où on donnait des instructions à l'ordinateur en lui disant « tournez à gauche, tournez à droite ». Donc Parsley Game, c'est également un jeu de société qui est directement inspiré du jeu vidéo. Donc beaucoup d'inspiration, beaucoup d'idées qui sont piochées dans le jeu vidéo et beaucoup aussi d'occasions de se rapprocher du jeu vidéo. La première chose à noter pour Zelda Breath of the Wild, c'est la façon dont le jeu a à vous apprendre à jouer. L'apprentissage d'un jeu de société, ça peut être pénible pour la personne qui écoute, pour la personne qui lit les règles, qui va les ingurgiter, qui va apprendre tous les petits détails et qui va devoir être confronté à quelqu'un qui n'a pas envie d'écouter, qui veut savoir. Zelda règle le problème. Le jeu va nous donner dès le départ, donc dès les premières heures de jeu, quatre outils. La bombe, qui permet de faire exploser des choses, le magnétisme, qui permet de soulever des objets en ferraille, le cinétisme, qui permet de bloquer des objets dans la position dans laquelle ils sont, et de leur donner une énergie qui va pouvoir permettre de les propulser un peu plus loin, ou beaucoup plus loin. Et puis, dernier pouvoir, le cryoniste, le pouvoir de faire des blocs de glace. Alors ce sont en fait, c'est des matériaux, des briques de construction qu'on va pouvoir combiner, qu'on va pouvoir utiliser dans l'open world et avec lesquels on va pouvoir s'amuser. Le reste, le monde qui nous est proposé, est un prétexte pour utiliser, pour combiner ces différents pouvoirs et pour donner libre cours à notre imagination. De mon point de vue, on est donc face à un jeu qui a un tutoriel qui est quasi parfait. Parce qu'on ne se rend pas compte que c'est un tutoriel, parce que les sanctuaires dans lesquels on va trouver ces pouvoirs sont déjà des expériences ludiques à part entière et qui vont nous permettre d'avancer dans l'histoire. C'est là que Zelda se rapproche du jeu de rôle. Un jeu de rôle qui est aussi un jeu de société. Et un jeu de rôle, je dirais, narrativiste. Pourquoi ? Parce que c'est toi, le joueur, qui va écrire ton histoire. Tu fais ce que tu veux. On va te dire, il faut battre Ganon, mais tu n'es pas obligé d'aller battre Ganon. Tu peux aller cuisiner, tu peux aller rencontrer des gens, tu peux aller explorer le monde, tu fais ce que tu veux. Dans l'ordre que tu veux. C'est-à-dire un peu comme quand on joue à un jeu de rôle, que le maître du jeu, lui, a son scénario en tête, et qu'il nous dit qu'il faut aller voir tel ou tel personnage, et qu'on lui dit « Non, nous, on va rester à la taverne, et puis on va boire, et on va rigoler, on va se raconter des histoires, et puis après, on va peut-être aller ailleurs, faire une autre quête. » Alors, c'est possible, peut-être, avec certains MJ pleins de ressources, possible surtout dans le jeu de rôle narrativiste où chacun va apporter sa pierre à l'histoire et donc va pouvoir apporter son bout d'imagination à un scénario qui n'est pas prédéfini. Et possible dans ce jeu vidéo où on peut prendre des raccourcis, où on peut aller plus vite, moins vite et qu'on a toute la liberté d'entreprendre cette aventure et ça sera son aventure. C'est cette liberté, cette possibilité qui est offerte au joueur d'aller dans la direction que lui a choisie, qui me plaît dans le jeu de rôle narrativiste et qui m'a énormément plu dans Zelda. Un autre mécanisme qu'on retrouve traditionnellement dans le jeu de société et qu'on retrouve dans certains jeux vidéo, parce qu'on ne le retrouve pas dans tout, c'est la contrainte. La contrainte, elle se rencontre au moins sous deux aspects dans Zelda. Dans le jeu de société, la contrainte, elle peut avoir plusieurs formes. Dans Patchwork, la contrainte, c'est vos trois prochaines pièces. Vous ne pouvez pas prendre la quatrième, il faut faire avec. Et c'est ça qui est intéressant. Dans un jeu de pose d'ouvrier comme Agricola, la contrainte vient du fait que on ne peut pas faire toutes les actions, on ne peut pas les faire dans n'importe quel ordre. Dans Zelda, le jeu nous autorise tout, mais ne nous permet pas tout. C'est-à-dire que si vous avez envie de gravir la plus haute des montagnes, vous pourrez. Ça sera possible. Mais votre endurance, la faiblesse de votre personnage ne permettra pas de le faire dans les conditions faciles, et peut-être que ce sera tout simplement impossible avant que vous ne vous soyez développé, que vous ayez plus d'endurance. Une autre contrainte forte, c'est l'usure des armes. Il est possible, dès le départ, d'avoir des armes qui sont plutôt puissantes et qui vont pouvoir nous permettre d'affronter des ennemis qui sont de haut niveau assez rapidement. La première contrainte, c'est qu'elles vont s'user et se casser. Et la deuxième contrainte, c'est qu'il n'y a pas assez de place dans l'inventaire pour pouvoir garder toutes les armes. Au final, la contrainte est sur une courbe de progression, ce qui maintient tout l'intérêt du jeu. Et dans Zelda, comme dans d'autres jeux de société comme Agricola ou Age of Steam, oui, Age of Steam, je compare Zelda à Age of Steam. Comme dans ces jeux de société, on arrive à avoir un point de bascule. C'est-à-dire qu'au départ, on se sent tout petit, on se sent tout nu, on avance pas à pas, et puis petit à petit, parce que à cause des contraintes qu'on va surmonter, on arrive à atteindre ce point de bascule, atteindre cet équilibre. On peut nourrir sa famille, on arrive à s'endetter dans Age of Steam, et au final, on commence à aller bien, on commence à marquer des points. C'est un peu pareil dans Zelda, c'est-à-dire qu'à un moment, un point de bascule, où on commence à rouler sur le jeu, on n'a plus cette contrainte, peu de cœur, peu de vie, peu d'endurance, qui nous font paraître tout petits, et où on commence à voir le prodige qui est dans Link. Et puis on retrouve dans Zelda deux aspects du jeu de société. On a d'un côté les mécaniques, et de l'autre côté, on a le thème. À première vue, on voit pas beaucoup la mécanique qui sous-tend le jeu Zelda Breath of the Wild. On pense que on combat des créatures, qu'on va manger de la nourriture pour gagner de la vie, qu'on va faire du commerce en vendant des pierres contre des rubis. Et puis quand on gratte un petit peu, on se rend compte que tout ça c'est du craft. C'est-à-dire que on a quatre cœurs, on va mélanger tel et tel ingrédient, et puis on va vendre ceci pour avoir cela. Comme dans Caius où on va échanger des matières premières contre d'autres matières premières ou de l'or. Ici, on va pouvoir récolter, farmer des insectes, des plantes, cuisiner. Ça va nous donner des rubis. Les rubis vont nous permettre d'acheter d'autres matières premières. Les premières matières premières vont nous permettre d'avoir des vêtements qui seront plus résistants, etc., etc. Donc, si on oublie l'aspect thématique, on est bel et bien sur un jeu à l'allemande où on va récolter du bois pour avoir de la pierre et on va vendre la pierre pour avoir de l'or. Alors, bien sûr, j'exagère. On n'est pas dans un jeu à l'allemande. Le thème masque complètement ou quasi complètement tout ce système d'équivalence de matière et de valeur des actions. Et d'ailleurs, c'est bizarre parce qu'on peut réintégrer ce système-là avec une des tuniques de Link qui permet de voir le nombre de points de vie des monstres. Et donc, on réintègre un petit peu de cette mécanique dans un système où il a complètement disparu. Au final, Zelda Breath of the Wild est sans doute mon jeu idéal. C'est un jeu qui s'apprend sans qu'on s'en aperçoive. C'est un jeu qui m'a permis de mener ma propre stratégie sans rien m'imposer. Et c'est un jeu dont les mécaniques et la thématique s'équilibrent. J'espère que vous avez apprécié cette parenthèse de game design vidéoludique. Si vous connaissez un jeu qui pourrait me plaire parce qu'il a toutes les caractéristiques et toutes les qualités de Zelda Breath of the Wild, eh bien commentez. Et si vous voulez rajouter quelque chose à cette petite chronique N'hésitez pas à me répondre, n'hésitez pas à commenter sous l'article du blog. Et puis, j'espère que vous aussi, vous aimez Zelda Breath of the Wild, que vous avez apprécié, que vous appréciez encore, ou que vous apprécierez un jour peut-être ce chef-d'œuvre de Nintendo. Et en attendant, jouez bien.
Merci Olivier pour cette analyse. Et voilà, c'est déjà fini. On est déjà obligé de se quitter.
Mais, que nenni.
Mais on pourra se retrouver bientôt et même en vrai.
Ah oui.
En vrai. donc à Strasbourg pour le festival des bretzels et des jeux. Ce sera le 3 et 4 juin. Donc deux jours. Si vous passez à Strasbourg ou si vous êtes de Strasbourg même, n'hésitez pas à venir. Nous, on sera là. On aura normalement une table pour vendre des goodies. Donc si vous n'êtes pas enfin,
ça
fan
sera pas la principale activité. On aura nos micros qui seront là.
On a nos micros. Voilà. On aura des goodies. Donc si vous voulez venir nous voir. Acheter des sous-bocs, comme on en a parlé. On en aura sûrement. Si vous voulez soutenir un peu le podcast, ou si vous voulez parler dans nos micros des jeux que vous avez découverts durant le festival, ou donner votre ressenti sur le festival.
On fera juste un peu de montage, on va dire où c'est, on n'a pas dit le lieu.
Et donc, n'hésitez pas à venir. Donc, c'est à Strasbourg. C'est quel lieu?
C'est Place de la Bourse.
C'est Place de la Bourse.
Alors, c'est à deux endroits en même temps, entre guillemets. Donc, c'est à l'intérieur de la salle de la Bourse. Donc, okay. S'il pleut, vous vous réfugiez à l'intérieur. Et s'il fait beau, vous pouvez aller dehors. Sur le parking, il y aura également des grandes tentes avec des tables de jeux et des stands des différents éditeurs.
Ok. Et nous, on sera dedans ou on sera sous, il faudra ramener le parapluie pour protéger le studio.
On va tirer une bâche au-dessus des micros et de la table de mixage.
Mais de toute façon, il fera beau. On sera à Strasbourg, il fait toujours beau, surtout au mois de juin.
En juin, voilà. C'est... aucun risque.
Il n'y a aucun risque qu'il pleuve. Enfin, attention, des fois, parce qu'il pleut, on va nous le reprocher. Je vais essayer de ne pas chanter trop le vendredi qui précède.
Voilà, pour, c'est ça. Pas de soirée karaoké.
Ouais, alors. Je vais annuler ma soirée karaoké du vendredi pour... pour aller jouer... Faut bien se reposer avant d'aller jouer le 3 et 4 juin donc à des bretzels et des jeux.
Et il y a ton chat qui est en train de se faire le canap.
Ouais.
Je conclue.
Vas-y.
Que vous ayez aimé notre émission ou non, faites-le nous savoir en laissant un commentaire sur le site podcast.proxy-jeux.fr. Proxy avec un I, jeu avec un X.
Ouais, je t'attendais au tournant.
Je suis obligé de réfléchir à chaque fois maintenant. Ouais.
Je t'attendais au tournant. Les podcasts avec un P aussi.
Voilà, ouais. Mais tu sais que j'y repense quand je commence à lire cette phrase. Et vous y trouverez toutes les infos sur les sujets que nous avons abordés pendant cette émission. Vous pouvez également nous contacter sur Twitter et sur Facebook. N'hésitez pas à nous noter sur iTunes. D'ailleurs, ça fait... je suis pas allé regarder récemment si on a eu des nouveaux commentaires.
J'espère qu'on en a eu, mais qu'on n'a pas regardé.
Voilà, ouais. À défaut de désespoir, on va même plus regarder.
Voilà. Vous voyez dans quel état vous nous mettez à ne pas nous mettre des notes sur iTunes. Il faut nous mettre des notes sur iTunes, sinon on est tout désorienté. On ne sait pas. On dit, oh non, on ne va pas. On
et
y va.
Noter, c'est bien. Mais mettre un commentaire, c'est encore mieux.
C'est encore mieux. Voilà, pour qu'on soit bien référencé. Quoi.
Et surtout, n'hésitez pas à parler de nous autour de vous. Et on espère en tout cas vous voir lors du Festival des Bretzels et des Jeux à Strasbourg. Voilà. Et en attendant, jouez bien. tapes Bubble Pop sur, sur Google, tu tombes sur une Asiatique un peu dénudée.